Bonjour tout le monde, merci pour les émissions encore. Bah, j'ai pleuré avec Naïma aussi, alors que Nanterre, je connais même pas. Mais voilà, c'est beau les émissions qui donnent de l'envie, de l'espoir et de la beauté, plutôt que de faire croire aux gens qu'il faut avoir peur. Et merci.
Je voulais intervenir suite à l'émission sur les bidonvilles. Moi, j'avais 11 ans. Et à l'Estac, ça existait. Je suis assez marquée par ces bidonvilles qui se construisaient en 60. Je ne connaissais pas cette immigration d'Algériens puisque nous étions déjà la deuxième génération et nous vivions au milieu d'Italiens espagnols, donc je me sentais plus proche. Et mes parents étaient venus pour le travail avec leur patron. Hein. Je cite là, « Maman, la jeune nommée Chaffa, âgée de 12 ans, célibataire et autorisée, à s'embarquer avec sa patronne pour la France. Au rang le 9-7-36. Papa, c'est pareil, venait de Tunisie en 33. Certifie que le nommé Kader, né en 33, voyage avec son patron pour s'occuper des travaux de maison. » Voilà, donc je suis assez marquée. Et ce qui me choque surtout, bon, enfin, moi, je vous dis, j'ai vécu ça en dehors. Mon père était venu travailler dans la sidérurgie Peñarroya et Kuhlmann. Et là, bon, il est mort à 50 ans parce qu'à cause de l'arsenic. Hein, c'est assez terrible, donc je suis très marquée par tout ça, révoltée. J'ai 54 ans et puis bon, c'est vrai, c'est des choses qui restent très présentes. Et toute cette génération de parents sont morts, qu'ils soient espagnols, italiens ou maghrébins. Voilà, merci. Au revoir.
Je suis Sylvie de Rennes. J'ai entendu votre émission, enfin le début de l'émission de Daniel Mermès, donc sur les bidonvilles. Et il a dit que ça existait, qu'on ne s'en rappelait peut-être pas que ça existait dans les années 70. Moi, je suis née à Saint-Denis et j'ai vu des bidonvilles à Saint-Denis, entre Saint-Denis et Aubervilliers, jusque dans la première moitié des années 70. Donc, c'est pas si vieux que ça, finalement. Alors, voilà, c'était pour vous le signaler. Au revoir.
Oui, salut Daniel Mermet. Bravo pour la très belle émission sur le bidonville de Nanterre. En 66-67, j'étais étudiante à Paris et je me souviens d'y être allée avec un copain portugais pour voir des amis à lui qui vivaient là. À cette époque-là, il y avait aussi une troupe de théâtre, je me demande si c'était pas le début du théâtre des Amandiers, mais j'en suis pas sûre, qui jouait la même pièce en français, en portugais et en arabe pour que tout le monde puisse en profiter. Et je trouve qu'il faudrait aussi parler un petit peu du magnifique bouquin d'Azouz Begag, Le Gaune du Chaba, qui évoque le bidonville de Villeurbanne et d'où a été tiré un film du même titre, Le Gaune du Chaba, que pour ma part je trouve excellent. Voilà, c'est Marie-Thérèse de Pau.
Bonjour, je suis Claire de Bordeaux, je suis une aficionadeuse de France Inter. J'écoute le matin Stéphane Paoli, c'est un régal. Et tout d'un coup, il y a une amertume au milieu de cette matinée. Ce sont les publicités vraiment complètement déconnantes et débiles. J'avais pas l'impression d'être un grand cerveau, mais en entendant ces horreurs, j'ai vraiment envie d'éteindre. Heureusement que pour France Inter, que les autres sont pires, mais enfin quand même. En tout cas, et un coucou à Daniel, que j'apprécie énormément et que j'entends malheureusement en poitillé parce que je travaille beaucoup et je n'ai pas l'occasion d'entendre les émissions en entier, mais bravo quand même. Au revoir.
Oui, bonjour. Je voudrais apporter ma pierre à l'édifice des protestations contre la publicité à France Inter. Hier, vendredi 3 octobre, j'ai entendu le début de l'émission et il y avait un déversement de protestations contre les publicités insipides et niaises d'un niveau affligeant qui nous prive d'une grande partie de nos émissions d'information et de magazines. Je suis très déçu par France Inter. Il y a plus de 30 ans que j'écoute France Inter, j'y suis venu justement en zappant sur d'autres chaînes de radio que j'écoutais et qui m'ont agacé avec leur publicité incessante. C'est comme ça que je suis tombé sur France Inter. Maintenant, toutes les heures, je zappe pendant 2 minutes et je commence à découvrir d'autres radios. Alors, méfiance, je pourrais peut-être un jour découvrir une autre radio qui me fera quitter France Inter et ce serait bien dommage. J'espère que M. Cavada aussi est conscient du niveau affligeant des publicités qu'il nous inflige à nos oreilles et que ce n'est pas un reflet du niveau de considération qu'il a pour son auditoire, qu'il est d'une qualité et d'un niveau au-dessus de ce que l'on supporte. Merci, c'était Gilles de Besançon.
Bien, ben je viens d'entendre la sortie du monsieur là qui est hors de lui parce qu'il est contre la pub dans le service public. Et il emmerde la pub, ceux qui la font, ceux qui l'écoutent, d'après ce que j'ai entendu. On devrait interdire la pub, on devrait interdire ceci, on devrait interdire cela. Et puis grossier et tout. Et c'est quoi un fasciste? C'est quelqu'un qui veut interdire, qui veut pas que les choses qui le dérangent continuent d'exister, etc. Donc je voulais dire à ce monsieur que on est dans un pays de liberté. Si la pub vous dérange, ben il y a un petit bouton en bas à droite là. Ben vous faites power off, hein. Et puis voilà. Et puis n'interdisez pas aux gens de faire des choses. C'est du fascisme. Vous êtes un fasciste. Voilà. Allez.
Et ben voilà, c'est parfait, c'est celui qui le dit qui est, vous êtes contre la pub, ami de la base, j'y suis ami de France Inter, ben vous êtes des fascistes parce que la publicité c'est libre, moi j'ai envie de faire de la pub sur ma radio, dans le paysage, etc., je suis libre, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à pas regarder la pub, ah ben non, vous n'avez qu'à pas écouter la pub, vous n'avez qu'à pas entendre la pub, chacun fait ce qu'il veut, c'est ça la liberté, c'est ça le libéralisme, c'est pas si souvent qu'on a quelqu'un qui nous donne un petit échantillon de ce qu'est vraiment la liberté néolibérale. Beaucoup de protestations, hein, ça chauffe, hein, contre la pub sur France Inter, là, en tous les cas, sur le répondeur de la base, si j'y suis, je crains bien que ce soit un peu général. Aujourd'hui, on retourne à Nanterre, le bidonville de Nanterre, mémoire de ce bidonville, vu par Dila Taïbi, notre ami Dila Taïbi, qui va se balader à nouveau avec sa photo, une photo de l'époque, ce bidonville où passèrent des milliers, peut-être pas des dizaines de milliers de personnes, du milieu des années 50 jusqu'au début des années 70 et dont il ne reste presque rien, sauf, dans les esprits et dans les mémoires et parfois des mémoires douloureuses, mais pas seulement aussi, c'était la vie, c'était l'enfance, c'était tout ça, et c'est tout ça qu'on va retrouver dans cette émission, dans ce reportage d'aujourd'hui, mais auparavant d'autres messages, vous connaissez le numéro, 01 56 40 37 37, c'est le répondeur de la base.
Bonjour, c'est Paul de Belfort. Voilà, je voulais vous dire que depuis une semaine, une famille composée de 12 Roms, des Tziganes roumains victimes de persécutions dans leur pays d'origine, sont arrivés dans notre belle ville de Belfort. Ils ont demandé l'asile territorial et sont donc en situation régulière en France. Il y a parmi eux un petit bébé de 13 mois qui sort de l'hôpital où il a dû être opéré suite à un abcès par manque d'hygiène, un enfant de 3 ans, une adolescente de 13 ans, d'autres ados ainsi que des adultes, dont une femme enceinte. Actuellement, ils dorment sous des bâches dans les hauts de Belfort. Plusieurs associations ont alerté les services sociaux et la préfecture pour tenter de leur trouver un toit avant que le froid n'arrive, et Dieu sait s'il arrive tôt ici à Belfort. Mais nous craignons qu'entre lenteurs administratives et manque de motivation des autorités, leur situation ne devienne rapidement encore plus dramatique. Être pauvre, étranger et de plus tzigane ne permet guère d'espérer de la compassion. Pour nous, il ne s'agit pas de pitié, simplement de solidarité humaine, si cela peut encore avoir un sens dans notre société. Comment accepter que sous nos yeux, des êtres humains s'enfoncent dans le dénuement et la misère? Une pétition circule actuellement pour que les services de l'État prennent leurs responsabilités et offrent à ces personnes un hébergement décent. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 03 84 90 05 13. Merci beaucoup, à bientôt Daniel.
Année 2014. Allô mémé, c'est Maurice à l'appareil. Oui, Maurice, ton petit-fils. Ça va mémé? Non, ça va pas très fort, hein mémé? Bon, voilà, on a discuté avec la famille, on a parlé de toi. Tu sais, mémé, on se fait du souci pour toi. Tu as du mal à marcher, tu n'y vois presque plus. La vie doit être dure pour toi, mémé. Ça va, mémé? Tu dis ça pour me rassurer, mais je sais bien que ça va pas fort pour toi, mémé. Alors, voilà. On en a parlé à l'infirmière. Oui, à l'infirmière, et elle est d'accord pour une euthanasie. Qu'est-ce que tu en penses, mémé? Oui, il faut que tu donnes ton accord, mémé. Oui, c'est indispensable. Ne pleure pas, mémé, sois raisonnable. Tu ne peux plus continuer comme ça. Alors, l'infirmière va passer te voir. Allô? Allô? Mémé? Merde, elle a raccroché, la vieille salope.
Ouais, salut Mermé, je voudrais réagir là par rapport à ces enfants qui sont morts dans un quartier de Strasbourg là. Juste pour dire que on est en train de montrer du doigt les parents qui ont fait l'acte, je dis, qui ont assassiné leur enfant, mais je pense qu'il faudrait aussi voir les causes et les sources de leur gestes. Hein. En général, les gens picolent, ils ont accès à la picole pas trop chère, et puis il y a le chômage, il y a la misère, il y a l'exclusion, tout ça quoi. Alors les gens de bonne famille là qui pensent que c'est un acte gratuit, que c'est fait comme ça, pas du tout. C'est construit dans la société, ces choses-là, ça arrive progressivement. Les gens ne sont pas destinés à tuer, on leur apprend tout doucement la violence passive, celle qu'on voit tous les jours dans notre société. Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus et puis voilà, c'est pas... Les gens ne font pas les choses aussi simplement comme ça. On tue pas les gens comme ça. On les prépare. Comme des militaires.
Eh bien, moi je donne pas mes coordonnées parce que ça n'a pas d'importance, mais c'est super. C'est vraiment un moment de bonheur tous les jours. Merci, au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Dilatébi, là-bas si j'y suis, souvenir du paradis.
Flight number 2, arriving from New York.
Il y a des enfants, il y a une dame là, il y a un monsieur. Un grand garçon, là, ça, c'est les petits, voilà, ils vivent comme ça. C'est vraiment...
Mais faut pas pleurer, mais c'était la nuit.
Je vais pas un coup.
Tout ça pour une photo. Une photo qui date de 1965, on a retrouvé le nom du photographe, il s'appelle Gérald de Bloncourt, je ne sais pas s'il existe, s'il nous écoute, ce photographe depuis 1965, et enfant jouant dans un bidonville de Nanterre. Et c'est avec cette photo que Dila Taibi est allé se balader à Nanterre, là où existait ce bidonville, plus aucune trace. Il est allé chercher dans les mémoires des uns et des autres. Vous avez habité là, vous vous souvenez? Regardez cette photo, c'était vous peut-être, ces enfants dans ce bidonville, la maman qui en attrape un autre, les gosses qui regardent avec une espèce de baguette dans une main. C'est évidemment des vêtements de l'époque, des fringues de l'époque, il y a un cajot. Et puis le bidonville lui-même, des planches, des bouts de fil, de bouts de ficelle, des amas, des gravats, des dessins sur à la craie, du carton bitumé. Et puis là, c'est assez sec. On nous l'a fait observer vendredi, hein. Mais ce qui revient dans toutes ces mémoires, dans ces témoignages, c'est la boue, c'est la gadoue, c'est le côté boueux, bouseux de ces bidonvilles où, du milieu des années 50 jusqu'au début des années 70, des milliers de personnes originaires d'Algérie ont survécu dans des conditions évidemment difficiles. Des bidonvilles comme celui-là, il y en avait d'autres autour de Paris. Au milieu des années 60, on comptait 60 000, presque 60 000 personnes vivant dans ces bidonvilles, à Champigny, à Saint-Denis, une auditrice le disait, Aubervilliers ou ailleurs, il y avait le bidonville des Portugais, celui des Yougoslaves et celui des Algériens, des Maghrébins. Il y en avait à Lyon, il y en avait à Marseille. Ils ont été résorbés, et puis on a dissimulé un peu cette pauvreté, cette misère. Sinon, droit au logement, le DAL n'existerait pas aujourd'hui si tout ça était... Mais on a changé de déguisement, et puis les temps ont changé. Mais la mémoire est restée. Plus aucune trace, pas de trace physique. On a voulu oublier tout cela, mais dans les esprits, c'est resté. Et comment c'est resté dans les esprits? Alors, il y a des mémoires, évidemment, vindicatrices, des mémoires, disons, historiques, d'historiens, des mémoires politiques. Et puis, il y a aussi des mémoires sensibles. Et c'est vers ces mémoires sensibles que Dila est allée, là. Mémoire de Monsieur Telaoui, par exemple, qui nous a raconté comment il a élevé ses enfants dans ce bidonville. La mémoire de Naïma, avec cette femme qui a une cinquantaine d'années et qui a grandi dans ce bidonville où elle jouait à deux ou trois soleils. Alors, il s'agit évidemment pas de culpabiliser qui que ce soit aujourd'hui, ni de victimer, comme on dit dans les quartiers, mais c'est simplement de prendre en considération, c'est-à-dire de considérer ceux qui ont passé des années de leur vie dans ces cités, dans ces bidonvilles, pour comprendre que certaines actions et certains actes parfois violents d'aujourd'hui ont des causes, et que ces causes, eh bien souvent elles sont dans ces mémoires-là. C'est jusqu'à 18h, c'est là-bas si j'y suis, et c'est Souvenir du paradis.
وها وشتني في الناس في الناس وجد ناس في الله وشحال قالوا الكلام وراهو مكوني بالكيان شداني في المواج يا في المواج الا بغات تعواج وشداني في الحجاج في الحجاج في زايدين في التهجاج
ها وعلاش هذا في الناس العشين بالبلا والفاس الهدر في الناس العشين بالبلا والفاس
صارت يا عشرة يا ناس لي زايدين
Je suis bien, je suis en bonne santé, les enfants ils sont en bonne santé. Je regrette rien, rien. Ça tombe la chanson, voilà, je ne regrette rien. Et si j'y suis, j'y reste. Je suis venu avec deux enfants, et j'en ai eu 10, 8 garçons et 2 filles, et 24 petits-enfants. Voilà, ils sont tous français. C'est leur pays, tous mes enfants, ils sont là.
Ah oui, la belle photo de famille,
voilà,
là.
Voilà. Moi, je suis là. Ça, c'est ma femme. Yamina. L'aîné, il est là. Il est dessinateur industriel. Lui, il est chauffeur du côté de Mantes-la-Jolie. Lui, il est directeur de société. Lui, il est représentant en Stinctor. Elle est préparateur en pharmacie. Lui, il est agent technique principal à la ville. Lui, il travaillait à la ville. Et agent technique aussi. Lui, il est chauffeur d'autobus, RATP. Lui, il est agent technique aussi à la ville de Nanterre. Elle, Nadia, elle est mariée de deux enfants.
Là, Naïma, pendant qu'on discute, vous avez vu, il y a un vieux, très vieux couple.
Oui, ils sont maghrébins, c'est des retraités en paix, comme les retraités français, tu vois, ils sont assis sur un banc. C'est une belle image, c'est beau ça, j'aimerais bien que ce soit moi, tu vois, plus tard. C'est beau parce qu'ils sont d'une génération qui est celle de mes parents, tu vois. Et puis, prenez pas le temps de vivre les gens, tu vois. Jamais je n'ai vu quelqu'un flâner dans les bidonvilles, tu sais. Non, nos pères travaillaient, ils rentraient à la maison, les pauvres, c'était l'instinct de survie, tu vois, il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de confort, et il fallait toujours, tu sais, il fallait se soucier du mazout s'il y en avait, il fallait se soucier de l'eau, du charbon, de la nourriture qu'il fallait au quotidien la chercher, tu vois, et puis déplacer des meubles, il y avait une fuite par là, il fallait la ranger, c'était tout le temps des soucis comme ça, et ça aurait été beau si on avait ces images-là. Tout le temps, on a passé dans le bidonville, on n'est pas parti en Algérie, je n'ai jamais vu mes parents partir en vacances. Je vois maman comme elle traînait. Quoi qu'il pouvait arriver, tu n'avais plus à calculer, tu n'avais plus à t'écouter, tu n'avais plus à ressentir. Tu subissais et tu suivais ton papa et ta maman qui étaient les pauvres. Et donc on était solidaires dans cette misère avec nos parents. Il y avait des vacances scolaires, donc là, oui, les vacances scolaires, on avait un petit terrain comme ça, vague, et on répétait les bidonvilles. On se construisait encore des petites baraques avec des cartons, des cajots. On se faisait des petites maisons et puis on allait ramener du petit linge de la maison, un petit oreiller. Et on rejouait le rôle de la maman, comment elle faisait dans les bidonvilles. On répétait ça un petit bidonville à nous. Et on a mis une tomate, on a mis une verbuille, ça, et on se faisait un salade de tomates. C'était vraiment très bien ça. Je pense que ça m'a vachement construit parce que de refaire une autre vie dans un petit bidonville à soi, avec des copines, avec des gens qu'on a choisis, sympa, un petit bidonville où on pouvait être heureux parce qu'on avait nos copines et on revivait une autre vie.
Tant de pluie tout à coup sur nos fronts, sur nos champs, nos maisons. Un déluge ici, l'orage en cette saison. Quelle en est la raison? Est-ce pour noyer tous nos parjures ou laver nos blessures? Est-ce pour des moissons, des terreaux plus fertiles? Est-ce pour les détruire? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un message, est-ce un cri du ciel? J'ai froid à mon pays, j'ai froid. As-tu perdu les rayons de ton soleil? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un bienfait? Est-ce pour nous punir? J'ai froid à mon pays, j'ai froid. Faut-il le fêter ou bien le maudire?
Qu'il a fallu de temps, de malheur, d'espoir, de lutte pour que la voix de Didier nous devienne aussi familière, pour que ce que dit Naïma à l'instant résonne dans toutes les consciences, pour que son histoire nous ressemble, pour que l'histoire de Monsieur Telaoui, fier, alors mais il a de quoi, il a bien raison, de ce que ses enfants sont devenus, nous soit à ce point et un tel écho dans toutes nos histoires à tous, parce que Monsieur Telaoui venait d'Algérie, mais d'autres en France venaient de régions et déplacés, et à l'automne de leur vie ont la même fierté devant une photo. Et c'est devant une photo que les uns et les autres se sont trouvés une photo que Dila Taibi leur a attendue, une photo d'un, de ce bidonville de Nanterre en 1965. Des enfants. Alors il a essayé de trouver les. Peut-être que les enfants avaient grandi et qu'on les. Alors il n'a pas tout à fait trouvé, mais enfin Naïma nous a dit vendredi qu'elle aurait pu faire partie des mômes qui étaient sur cette photo. Et Monsieur était là, oui, dit oui. Oh, ça aurait pu être mes enfants à l'époque. C'est dans cette mémoire qu'on se balade, une mémoire sensible et quand même un passé qui ne veut pas passer lui non plus.
Alors Naïma. Au fur et à mesure qu'on s'est approché, quand vous avez vu le mur, il y a eu le souvenir du 1, 2, 3 soleil. Et concernant la baraque, donc là, juste devant nous, hein, donc maintenant c'est des buissons, hein, mais les beaux souvenirs, il y en a eu là?
Non, pas du tout, non, oh là, c'est une grande misère. Là, c'est plutôt, c'est du Zola, hein. Tu pleures à chaque histoire, sauf qu'heureusement, je ne suis pas restée marquée par ces histoires. J'ai été marquée dans mon enfance, mais...
Quelle histoire?
Ben, par exemple, maman, il a tuberculose dans ses bidonvilles. Alors, elle était enceinte de mon frère, elle a dû être hospitalisée. Mon frère, à sa naissance, il a été séparé de sa maman. Puis j'avais aussi mes frères et sœurs qui étaient séparés de nous. Donc c'était encore une deuxième coupure, tu vois, avec le pays, avec la famille. Tout ça à cause de la France, tu vois. Et les microbes et la saleté de bidonvilles. Il y avait la tuberculose. Et puis nous, on n'avait pas de famille ici, on n'avait pas nos tantes, nos grand-mères pour nous garder, donc on était isolés de tout. Et ce qu'on nous a fait, c'est qu'on nous a répartis dans les instances publiques, là. Et moi, je parlais pas encore bien le français, et puis je connaissais pas la culture française, rien du tout. Et on nous a mis chez des religieuses, donc la religion catholique. Alors on nous a encore coupés et mis dans une situation qui ne s'adaptait pas à ce qu'on nous a donné. Il fallait s'y faire. Donc c'était l'Ave Maria et puis tous les chants religieux, je les ai appris. Comment c'était là, mince. Et dans ma religion, moi je me suis convertie aussi, je suis plus pratiquante à l'islam parce que je prie et tout ça, donc ça me fait tout drôle de... Mais il y avait celle-ci, c'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour au Seigneur. Porte-nous tous dans ton amour, quelque chose comme ça.
Ouais, ça, c'était là.
Plus, j'aime bien, c'est très joli. Oui, c'était une chanson qu'on chantait le dimanche à l'église. Et puis, on se réunissait sous un arbre avec les religieuses pour méditer, pour...
Et est-ce qu'avec les religieuses, vous parliez de votre maman ou de la tuberculose ou du bidonville
Ah non, les religieuses nous ont fait une vie dure. Moi, mes parents, ils m'envoyaient des colis. Il fallait les partager avec tout le dortoir. On n'avait rien de personnel, on n'avait pas de vie personnelle, on était vraiment en communauté. C'était vraiment dur, c'était dur. Papa, il avait à voir maman d'un côté, mon autre soeur dans un autre sanatorium. Enfin, le pauvre, quand il me raconte ça aujourd'hui, oui, il avait aussi une vie pénible.
Alors, ce bidonville de Nanterre a fait l'objet d'un livre, un livre de Brahim Benaïcha, qui s'appelle « Vivre au paradis », puisque c'était la rue de Paradis, comme on nous l'a expliqué, même d'un film qui s'appelle « Vivre au paradis », qui retrace vraiment ce qu'a été cette vie. Pas seulement, c'était bien sûr de la souffrance, c'était bien sûr du combat, c'était bien sûr des difficultés terribles, mais comme toujours... Et il y a le malgré tout, il y a le... il faut vivre quand même, c'est la jeunesse, c'est l'enfance quand même, et c'est ce que ce film et ce livre retracent. Et l'auteur de ce livre, c'est Brahim Benaïcha, qui aujourd'hui a une belle situation, qui est comptable, qui est professeur de judo, mais qui n'a rien oublié.
Comment ça se passait la vie de famille? Le père allait travailler?
Il était OS, donc il était devant une chaîne de montage. Et c'est là qu'il aurait fallu qu'on ait des visionnaires, de donner de la chance à ces gens-là qui sont capables de vous élever 10 enfants dans des baraques pendant 10 ans. Donc c'était un homme digne. Et c'est un homme qui a travaillé, et puis le jour où il est tombé malade, c'est parce qu'il n'arrivait plus à se lever. Pour lui, c'était la déchéance, mais moi je savais qu'il ne retournerait pas en usine. Alors, Citroën, ils avaient un service social. Mais comme j'étais chargé un peu des affaires de famille, Mademoiselle Karl, à l'époque, nous a convoqué, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez, quand vous êtes, on appelle ça des bancs de charbon, des couvertures, des aliments. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis, on a une demande à vous formuler avec mes frères, on aimerait bien visiter son lieu de travail sur la chaîne. Est-ce que la direction de cette Rouen peut nous permettre, pour notre mémoire, de à partir d'où où notre père a transpiré pour nous nourrir, quoi, et nous éduquer, c'était ça. Elle a fait la demande, et ça a été refusé. Ils n'ont rien compris, ils ont pensé qu'on allait en parler à des journalistes, mais c'était pas le sujet, c'était un problème de travail de deuil. Ils me disaient, mais jeune homme, réfléchissez, demandez. En plus, mon père était beaucoup apprécié, il a travaillé, on avait droit, je pense qu'on a toujours droit, le fait que notre père a travaillé pendant des années chez Citroën, d'acheter des voitures avec une forte réduction. Jamais, 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 aucun de nous, de mes frères ou de ma soeur, n'a acheté une Citroën. Donc avant de nous donner des essuie-glaces ou un clignotant ou un capot d'une DS, nous on aimerait bien voir comment il les a fabriqués et qu'elle passe. Je suis sûr que s'ils avaient accepté de nous montrer là où il a travaillé, faut pas refuser une aide, mais c'était pas ça qu'on voulait. Je suis désolé. Les 3-8 étaient organisés. Un type qui fait 193 heures, faire des heures supplémentaires pour avoir une paye décente, c'est qu'il a été, son énergie, sa force est partie en pare-choc de DS, de chevaux, etc. Donc, son énergie, sa vie, elle est passée quelque part. Mais je suis sûr qu'on aurait demandé de l'argent, qu'on aurait demandé de l'alimentaire. Je suis sûr qu'on aurait obtenu ce qu'on aurait voulu.
L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il encaisser encore les coups? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
On m'a demandé d'oublier les années de saignée, le mépris planifié à tour de bras renouvelé, les carnages organisés, les mises en charpie autorisées, les songes et espérances liées pas à la frais. On m'a demandé d'oublier ces rayons de gloire qu'a pu darder une nation à nous expédier en charbon, des années après l'industrie te perd fort les poumons, sinon pas déjà tâté les pales au front, en première ligne tir à canon. On m'a demandé d'oublier les noyades occultées d'une dignité, sa mémoire, les chapes de plomb, les écrans noirs, plaqués sur toute l'étendue des brûlures d'une histoire, et le prix des soulèvements, les trop pleins, de martyrs étouffés, de lourds silences au lendemain, de pogroms en plein Paris, de rafles à la peine, et ce 17 octobre 61 qui croupit au fond de la Seine. On m'a demandé d'oublier
l'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il encaisser encore les coups? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perce et laisse des trous.
Perce et laisse des trous.
Les causes, et oui, il faut revenir sur les causes, sur cette mémoire immigrée, cette mémoire de la colonisation, cette mémoire de l'immigration. Bien sûr, certains sont en train de dire « populisme, mélo !» Naïma elle-même disait « c'est du Zola ». Ben oui, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Et puis, surtout, c'est ce qui reste, cette chanson en témoigne, c'est ce qui reste dans les mémoires et qu'il ne veut pas sortir de ces mémoires-là, qu'on le veuille ou non. C'est là et c'est, ça devient une réalité, même s'il y a une part, évidemment, de reconstruction, d'imaginaire, mais c'est quand même bel et bien là. Dans ce présent, dans cet imaginaire présent. On est avec Naïma, je l'ai dit, avec Brahim Benaïcha, celui qui a écrit un livre sur ce bidonville de Nanterre, et avec Monsieur Telaoui, si fier d'avoir élevé ses 10 enfants, à juste titre. Et lui aussi a été, comme le père de Brahim Benaïcha, un ouvrier de ce temps-là.
Moi, en 40 ans de travail, j'ai eu 15 jours de chômage. 15 jours. J'ai jamais manqué de travail. J'arrêtais dans un endroit, le lendemain matin, je vais dans un autre.
Alors, vous avez fait quoi comme travail?
Moi, j'étais en Algérie, je conduisais les autobus. Et quand je suis venu là, comme il n'y avait pas de boulot, j'ai commencé l'usine Valentine, la peinture. Et comme dans la peinture, les Français ne travaillent pas dans la peinture, parce que c'est du poison, et les Arabes, il y avait beaucoup qui ne savaient ni lire ni écrire, et moi, comme je savais lire et écrire, je suis devenu chef d'équipe. Et c'est moi qui s'occupe des préparations pour la peinture, Renault, Simca, Citroën, Panhard et tout ça. Et je faisais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et j'ai travaillé dans cette usine jusqu'à il y a eu la grève des 8 jours que la FLN avait déclenché cette grève. Et là, ils ont licencié tout le monde. Ils ont licencié, mais j'ai trouvé du boulot tout de suite. J'étais dans un centre de recherche. Ils m'ont embauché pour un chauffeur de car, parce qu'il y avait un chauffeur, il était tout le temps malade. Et quand il m'a embauché, il n'est plus malade. Alors, moi, j'étais dans un atelier et je faisais la mécanique. Sans arrêt jusqu'à la retraite. Et j'ai bataillé pour acheter quoi que ce soit, mais je ne gagnais pas beaucoup avec les enfants. C'était impossible.
Vous gagnez combien?
170 francs par quinzaine. Nous, on achetait, on mangeait des haricots, des lentilles. On ne mangeait pas les beefsteaks. C'est hors de prix. Et on mangeait juste pour manger, c'est tout. Pour s'habiller ou acheter de la fripe. Ou quand ils rentrent à l'école, il faut leur acheter des habits neufs ou pendant les fêtes, tout ça. Mais sans ça, on n'achète que la fripe.
La circoncision, par exemple, c'est un rituel comme ça, on dit qu'ils aient l'enfant, on dansait, on chantait nos chants avec des femmes, des madahet dans le temps. Aujourd'hui, il y en a une qui est décédée, mais c'était pour moi génial ça. C'était, d'ailleurs, je n'ai pas connu ça en Algérie, je l'ai connu en France et j'étais très très demandeur de ça. Alors j'allais avec moi tout le temps et heureusement, il y avait ces fêtes-là pour égayer un petit peu les bidonvilles. Les gens, malgré ça, se mariaient. Il y avait comme ça un souvenir d'un mariage, parce que dans le temps, il y avait très peu de gens qui avaient une voiture. Alors, il y avait un papa qui avait marié sa fille comme ça, et des bidonvilles, ils allaient habiter, je ne sais plus, dans une autre ville, disons Gennevilliers comme ça. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait pour inviter tous ses amis des bidonvilles? Il a loué, tu sais, un car municipal. Alors, tu vois la mariée avec sa robe de mariée, cortège, là, tu sais, au fond du car. Voilà, elle était assise avec son voile et tout, puis tous les bidonvilles, on était assis dans le car, on faisait la darbouka là et tout ça. Ça, c'était un moment extraordinaire. Et là, c'était la promenade en car, c'était génial. Comme dans un film, tu peux pas dire que c'est de la réalité ça, tu peux pas voir une mariée dans un car municipal, tu vois. Les cars municipaux, c'était pour aller, tu sais, encore une vacance, des choses comme ça. Mais alors, voir la mariée dedans, et puis avec les papas et les mamans, ça, c'était, je sais pas, ça faisait partie d'une vie comme ça. Toujours tout, c'était bizarre.
C'était le 4 juin 58 à Alger. Pour la plupart des Français d'Algérie, ce que le président de Gaulle avait compris ce jour-là, c'était qu'ils voulaient, eux, Français d'Algérie, que l'Algérie reste française, que la Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris. C'était l'intégration. Pour d'autres, ce qu'il avait compris, c'était la soif de paix d'un pays en guerre depuis 4 ans.
Sans promettre, bien entendu, aucune date. sans avancer aucune promesse, sans me vanter d'aucune autre cuidance. Je dis cependant à bourse que le jour est en vue où l'Algérie sera pacifiée grâce à une compréhension générale de tous ceux qui l'habitent et pour aboutir à une transformation profonde de ce pays-là afin que tous ses enfants, je dis tous ses enfants, puissent disposer de leur sort et du sort des terres qu'ils habitent.
Quelque part au Moyen-Orient, le FLN répond « Nous nous sommes préparés pour une guerre de 20 ans. C'est l'indépendance que nous voulons. »
Un pays qui, de son propre mouvement, j'en suis sûr, voudra pour toujours rester lié à la France.
Pour certains, voilà l'explication. Le président est persuadé que l'Algérie voudra librement rester liée avec la France.
Je vous ai compris.
Restez lié avec la France.
Je vous ai compris.
Là, tout droit, là, je vois ce mur en brique là en face. Je jouais à 1, 2, 3 soleils dessus. Taper comme ça au mur, 1, 2, 3 soleils, on se retourne, toutes les copines, elles devaient marcher, hop, s'arrêter quand on devait les regarder.
Des années très très dures pour les enfants, pour nous, pour la sécurité, tout ça. On avait peur.
Cette photo, elle est magique. C'est la vie, c'est l'espoir, c'est l'avenir. Il n'y a quasiment que des enfants en dehors d'une mère de famille, il n'y a que des enfants.
Voilà, c'est l'histoire. Les voix de l'histoire, le pompeux de l'histoire, l'intelligence de l'histoire, la volonté aussi, et puis la mémoire. Et puis la mémoire sensible, 1, 2, 3 soleils. Une photo aujourd'hui qui montre en 1965 ce bidonville à Nanterre, qui montre et qui raconte, parce que voilà, Dila s'est baladée avec cette photo, l'a montrée, et c'est ces paroles que vous entendez, ces paroles sensibles qui sont liées à l'histoire, qui sont des effets de l'histoire, parfois des victimes de l'histoire, et qui d'une certaine façon, et c'est cette façon qui est la plus importante, font aussi l'histoire, parfois même à leur insu. Bidonville de Nanterre, histoire, mémoire du paradis.
Le 17 octobre, il fallait aller au Quatre Chemins, à Colombes. J'avais 4 enfants, les deux, il y en a 2 qui marchent, et puis il y en a 2 qui peuvent pas marcher. Bon, on arrive au Quatre Chemins, là, à Colombes, il y a une camionnette, elle arrive. Ma femme et nous avons monte dans la camionnette. Et puis on arrive à la Défense, ils disaient, bon, les hommes, ils descendent, et les femmes et les enfants restent dans la voiture. J'ai dit, moi, ma femme avec 4 enfants, c'est pas possible, ils sont petits, tout ça. Je descends avec mes enfants, et voilà, le départ est donné. On était des milliers à la Défense, avant qu'ils construisent la Défense. On descend à pied, pour moi, quand je suis fatigué, je mets l'enfant, et puis voilà, on arrive, on avance, on arrive au pont Neuilly. Et c'est là, la rafale de mitrailleuses ou de mitraillettes. Et nous, on s'est sauvés, il y en a qui se sont sauvés pieds nus et tout ça. Et puis, moi, pour retourner, il y avait trop de monde de la Défense au pont Neuilly, puisqu'il y avait des milliers. Et puis, j'ai pris le long de la Seine, jusqu'au pont de Turenne. Et au pont de Turenne, il n'y avait plus de bus. C'est-à-dire, il était peut-être 9h ou 10h du soir. On a fait tout ça à pied. Et on est monté de côté de l'hôpital Foch. Et je suis descendu là pour aller à la, dans la, le bidonville. Voilà, ça, le 17 octobre 1961. Oui. À minuit.
Avec votre femme et vos enfants?
Ma femme et mes enfants. Ils ont, pendant une semaine ou 10 jours, et la police s'acharnait sur les gens comme ça pour rien. Ils ont jeté beaucoup de monde dans la Seine. Le père à ma femme, ils lui ont cassé un bras. Parce que lui est parti en autobus. Et juste au moment où il descendait d'autobus, la police il mettait à gauche et à droite et puis commençait avec les patraques. Et lui, ils lui ont cassé un bras. Et puis cela, le 17 octobre après, est venu mars, puis c'était la fin de la guerre. Et on était tous contents que plus de problème.
Et comment ça s'est passé ce jour-là dans le bidonville?
Et la fête, ça a duré, c'est pas 15 jours, pendant un mois. Les gens, ils étaient habillés en drapeau algérien, des rampes, des drapeaux sur les maisons, tout ça. Et voilà, il y en a qui sont rentrés, mon frère, moi, il est rentré. Et moi, je suis resté là.
C'est génial d'être dans une famille nombreuse parce que les frères et sœurs, ils sont d'un immense secours là. C'est des roues de secours comme ça qui sont là à chaque fois. Comment vous dire? Mes parents, ils n'avaient pas une grande... C'était mon maman qui faisait à manger, mon papa qui ramenait de l'argent, mais c'était pas eux qui m'ont donné mon éducation. C'était mes frères et sœurs. On n'a rien partagé avec nos parents, vraiment rien. Même pas leur histoire. Parce que c'était pudique d'aller raconter sa petite enfance à son enfant. Ou, non, on ne savait rien de nos parents. Une fois, on a demandé à mon papa, qu'est-ce qu'il faisait ton père? Mon Dieu, il nous a sorti ses gros yeux, là, de dire, c'est un terrain qu'il ne faut pas venir, faut pas chercher sur ce terrain. Donc, on n'a pas insisté. Mais lui aussi, eux aussi, les pauvres, ils font de la peine parce qu'ils ont envie d'oublier cette histoire. Parce que je pense que ça ne doit pas être une belle histoire s'ils nous la raconteraient. Et puis voilà. Voilà les relations avec les parents. On n'a pas de relations. Les parents, ils ont fait des enfants. On les nourrit. Et puis voilà. On les éduque dans le sens où il faut pas sortir, faut pas fréquenter. Et puis, ça s'arrête à ça. Il n'y a aucun échange, aucune psychologie, ni pédagogie. Je vous dis, on nous a pas préparé à venir en France. On nous a pas dit dans quel bidonville, qu'est-ce qu'on allait être en France. On suivait comme des moutons de panurge. Et puis voilà.
Et est-ce que vous êtes déjà revenu ici avec Abdallah, votre mari, ou vos enfants en famille?
Moi je suis quelqu'un de très sensible et puis ils n'aiment pas me voir comme ça avec des émotions et c'est vrai, ils ont un grand cœur pour moi et ils n'ont pas envie de me voir, ils ont envie de me voir toujours bien, tu vois, ils n'ont pas envie de sentir mes plaintes ou mon chagrin, tu vois, ils n'ont pas envie d'avoir de la peine pour moi. Puis c'est normal, je pense qu'on ne peut pas, c'est tellement dur infliger ça à nos enfants, je trouve que c'est, nous on l'avait vécu, c'est dur, mais être témoin de ça, je trouve que c'est pénible pour les enfants. Il faut pas leur... Non.
Je suis le cœur. par leur barbarie. Mais je suis le courage des combats redoutés. Mes hanches et ma blessure, j'ai mal à mes enfants décapités, à l'honneur, à part, à l'oula, à la
Merci à tous, merci à Naïma Afia, Monsieur Telaoui, à Brahim Benaïcha, Kera Glanine, à Monique Herbeau aussi qui nous a donné un coup de main. Merci à Manoz et à sa famille. Je signale le livre de Pascal Blanchard et toute une équipe, Le Paris Arabe aux éditions de la Découverte, un livre magnifique. Le livre dont j'ai déjà parlé, celui d'Abdelmalek Sayad, pardon, aux éditions Autrement. C'est déjà, il y a déjà quelques années, mais c'était un livre formidable sur le bidonville de Nanterre. Nanterre, un bidonville algérien. Et puis Monique Herveau, chronique du bidonville Nanterre en guerre d'Algérie aux éditions du Seuil. C'était un reportage de Dila Tebi. Technique aujourd'hui, Olivier Ruyotor et Olivier Leroux, assistant de Joël Levert. Le répondeur, c'est Christophe Imbert. Et le numéro du répondeur, c'est 056 40 37 37. Les choix musicaux, c'est Koy Nguyen et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Il me reste encore quelques secondes pour vous signaler aux Bruxellois, s'ils l'ignorent encore, il y a un spectacle absolument formidable qui se joue, que j'ai eu la chance de voir samedi soir à Bruxelles, au théâtre de Poche, qui s'appelle Palestine, chronique d'une occupation, et qui raconte la vie quotidienne en Palestine, dans les territoires occupés, d'une manière très drôle. Ça paraît grinçant de dire ça dans un jour comme aujourd'hui, mais c'est pas si éloigné de notre démarche d'aujourd'hui de montrer la vie quotidienne, de passer par la vie quotidienne et de faire un pas de côté par rapport au rouleau compresseur de l'histoire. C'est le moment tant attendu de la réclame.